comment ce couturier adulé, admiré, convoité aujourd'hui était passé d'un statut finalement très opposé, qui était celui d'artisan fournisseur au début du XXe siècle, pour arriver aujourd'hui à ce statut d'icône de pop star tel qu'on le connaît. Il y a des étapes assez décisives, il y a une histoire de la mode, parce qu'évidemment cela met en lumière des grands phares de la couture hexagonale et internationale, mais surtout française. Et donc on a un chemin sur la construction médiatique du couturier et éventuellement une histoire juridique et artistique de son statut, parce que ça passe également avec ça. C'est un phénomène assez récent, même, que le couturier soit reconnu en tant qu'artiste, comme un sculpteur, un peintre ou un autre artiste.
Le couturier popstar dans la voix du commissaire d'exposition Olivier Saillard en 2002 à l'occasion de l'exposition Couturier Superstar au musée de la mode et du textile. Aujourd'hui, un autre regard sur la mode que celui livré hier par la créatrice Agnès B, celui d'une tête chercheuse, l'anthropologue Julia Mensi-Thierry. Elle a enquêté dans les coulisses de cette puissante industrie pour comprendre l'attrait de ce milieu, ce monde d'imaginaire et d'image, comme elle l'écrit, combinant la beauté, le luxe, les fastes, la créativité, les excès, le pouvoir et l'argent. Elle a gratter à la surface pour aller voir au-delà des apparences et saisir une réalité aussi faite de travailleurs, d'usines, d'ateliers, de corps, d'espaces et d'objets. La mode, une institution entre prestige social et précarité, modèle des mutations du capitalisme qui préfigure le monde du travail de demain. C'est un peu comme ça, ou en ces termes, qu'on pourrait résumer, évoquer le constat de votre enquête. Bonjour à vous, Julia, merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée, bonjour.
La présentation des collections Julia Mensi-Thierry de prêt-à-porter automne-hiver 2018-2019 s'est achevée hier à Paris, un temps fort pour les différentes maisons de couture, au-delà du spectaculaire, des défilés. Est-ce qu'on peut tout de suite dire que cet événement a une portée économique de taille aujourd'hui, que les enjeux économiques sont vraiment devenus très importants?
Absolument, la mode est la deuxième industrie la plus puissante dans les économies françaises. Elle représente 6% de la consommation mondiale, donc malgré toutes les images et les imaginaires qu'elle produit, elle a une dimension économique et matérielle fondamentale. Et toute la consommation qui fait la richesse de cette industrie est générée par la production d'images et d'imaginaires que l'on a vu précisément sur les passerelles. Donc l'enjeu économique de ces moments de spectacle, de rêve, de matière, de paillettes, de dentelles, est fondamental, est central.
Alors ça l'est pour les maisons de couture, ça l'est pour tous les métiers qui gravitent autour de ces maisons, mais on imagine que ça l'est aussi pour un pays. Vous vous prêtez dans cet ouvrage, entre autres, et on va reparler de votre méthode, à une sorte de tableau de cette industrie massive de la mode aujourd'hui, et vous écrivez que dans cette géographie du luxe, la valeur symbolique d'un pays devient commercial. C'est un système monde que vous explorez et on a le sentiment à vous lire qu'il se joue vraiment à l'échelle mondiale, ce système.
Absolument, il se joue à l'échelle mondiale et de tout le point de vue. Il suffit de penser à la matière première que la mode mobilise, les tissus, le coton, la soie, ce sont des matières premières qui sont importées souvent, si on observe cette industrie du point de vue de où nous sommes, à Paris, et en même temps si on arrive à l'autre bout de la chaîne de ce système tentaculaire, les consommations du luxe sont à présent assurées en grande partie par l'Asie, par le monde arabe, etc. Donc il y a un emboîtement très important des représentations. On a parlé d'imaginaires nationaux avant, du point de vue politique. Je trouve que la dimension politique des imaginaires nationaux est fondamentale également dans la mode, pour tout ce qui est, par exemple, de Made in Italy, Made in France et tout ce que cela représente en termes d'imaginaire et pas forcément en termes de réalité de production. Donc voilà, il y a des emboîtements, des circulations que moi j'ai essayé de retracer à travers mon enquête, des circulations inégalitaires, aussi bien des travailleurs que des matières, que des labels et que des capitaux évidemment.
Et vous dites que c'est pas si simple d'ailleurs d'opposer le répulsif Made in China au Made in France aujourd'hui. Tous ces ces labels de provenance attestent de réalités qui sont en fait peut-être bien différentes de ce qu'on imagine. Vous avez évoqué le Made in France. On a récemment vu la reine d'Angleterre, Elisabeth II, au défilé de Richard Queen à Londres. C'était une première. Un dîner a été organisé avant-hier à l'Élysée, à l'invitation du couple présidentiel, des créateurs de mode, une centaine invités par Emmanuel Macron et son épouse, la première dame, Brigitte Macron. Le luxe, c'est un des atouts pour vous aujourd'hui du soft power à la française, Julia Mency-Thierry?
Oui, premièrement, c'est du pouvoir. Donc le pouvoir va avec le pouvoir. C'est banal à dire, mais ces phénomènes que vous évoquez, cette coexistence du pouvoir politique fort et de ce pouvoir des imaginaires qui se fréquentent, attestent bien que cette industrie-là, elle a un poids qu'on ne peut pas éviter de reconnaître. Donc, et en même temps, évidemment, les enjeux économiques et symboliques pour des pays tels que la France, liée à la mode, sont énormes, tout comme en Italie, le pays duquel je suis originaire. C'est-à-dire que, voilà, si le poids économique est tel, eh bien, on ne peut pas faire l'économie de reconnaître cet univers-là et de les côtoyer. C'est un changement. J'ai eu, lors de mon enquête, un entretien avec le directeur d'une grande école de mode publique, qui a été aussi un chef d'entreprise, et qui me disait, la politique ne peut plus se permettre de considérer la mode comme, je cite, un truc à con, passez-moi l'expression. Le poids est tel que, il faut qu'elle soit reconnue.
Donc le poids est-il en termes d'image de marque, mais il l'est aussi en termes industriels. Qu'est-ce que le luxe représente dans l'industrie française, dans ce secteur de l'industrie française? Qu'est-ce qu'il pèse?
C'est la deuxième industrie mondiale, je pense, avant le pétrole et après les automobiles. Donc c'est un poids fondamental dans les économies générales de la France et aussi du point de vue des imaginaires, parce que ce que Paris pèse dans la cartographie mondiale du luxe, de ce qui est désirable, de l'élégance, eh bien ce n'est pas une dimension simplement symbolique. Ce sont des économies, ce sont des gens qui viennent, qui veulent travailler ici, qui veulent venir voir, consommer, participer à ce Paris d'élégance, de raffinement. Donc voilà, ce que j'essayais moi de faire à travers mon enquête, c'était de montrer combien le capitalisme actuel, combien les économies du capitalisme actuel sont à la fois matérielles et immatérielles, et quel est le poids des imaginaires dans les économies du monde que nous habitons. Et la mode est pour moi un exemple fantastique pour le démontrer.
Une question d'Antoine Mercier. Justement, ce secteur de la mode que vous avez donc pris comme modèle pour explorer les nouvelles tendances du capitalisme ou du libéralisme, c'est là où on peut voir peut-être le mieux ou le plus loin ce qui est en train de se produire. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette situation globalement d'abord peut-être?
Oui, absolument. La mode est pour moi vraiment quelque part un miroir déformant, au sens où elle agrandit les tendances, comme vous le dites, du capitalisme actuel, notamment du point de vue du travail. Et c'est vraiment l'aspect auquel moi je me suis intéressée principalement, parce que toutes les autres dimensions, les habits comme langage, etc., ont été étudiées. Mais le travail, et le travail ici, dans les cœurs, les noyaux du pouvoir symbolique de la créativité, n'a pas été forcément exploré. Et qu'est-ce qu'on y trouve lorsqu'on va regarder dans les coulisses derrière les paillettes, on va dire? Eh bien, on trouve un secteur professionnel où le travail gratuit est érigé à norme, où malgré l'excellente santé financière de l'industrie, le travail précaire y est énormément diffus, où les rétributions des prestations professionnelles sont avant tout symboliques et en termes de reconnaissance sociale et de statut et pas en termes économiques. Et donc, qu'est-ce que ces constats nous disent du capitalisme actuel? Ils nous disent que il y a une transformation de la valeur, du sens du travail, de ce qu'on cherche dans le travail, évidemment, je précise toujours, on parle des noyaux riches du capitalisme actuel. Il y a d'autres lieux dans ce monde où on peut pas se poser, on n'en a pas le luxe de se poser la question de l'épanouissement personnel. Mais néanmoins, voilà, je trouve intéressant de observer comment des secteurs de production qui sont surexposés. J'utilise la métaphore de la surexposition pour parler de la mode, c'est-à-dire un monde qui est tellement exposé à la lumière qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, comment ces industries-là, si puissantes symboliquement et économiquement, peuvent se permettre de normaliser le travail gratuit et précaire.
Mais si on comprend bien, c'est parce que justement tout cela est attrayant et valorisant qu'on est prêt à travailler gratuitement ou de façon précaire. On accepte davantage, une acceptation
exactement
subjective de la chose.
Vous démontez les rouages en fait de ce consentement à cette situation et ce qui fait que ce milieu attire toujours. C'est une des questions que j'avais envie de vous poser pour cet essai enquête. Vous êtes allé voir de l'intérieur, comment ça se passe derrière l'image qu'on nous vend. Est-ce que vous avez été attiré au début, comme nous tous, par ce capital sympathie de cette industrie créative ?
Je dirais pas que j'étais attirée par l'industrie elle-même, pas plus que le citoyen lambda. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis rentrée dedans, malgré ma position de chercheuse, donc une position qui essaye de garder une distance, j'étais systématiquement prise dans les dynamiques de mobilisation des affects sur lesquels se base la mode. Et j'ai pu observer surtout cette dimension qui pour moi est fondamentale. On parle de rêve, hein, c'est la dimension qui est, s'il y a une notion qui est ressortie de manière constante dans l'enquête, cette notion de rêve, la mode fait rêver, travailler dans la mode, ça fait rêver, regarder un magazine, c'est le rêve, et pour moi, la mode est à la fois l'industrie du rêve, ce qu'elle vend, c'est du désir de se transformer, et à la fois, elle est le rêve du capitalisme, et bien, ce rêve-là, il est le moteur de cette industrie, c'est-à-dire que le consentement se base aussi sur le fait que le présent des travailleurs est colonisé par des projections désirables. Je tiens en ce moment dans la précarité. Je travaille gratuitement pour ce magazine. J'assiste ce grand couturier pour un salaire moindre parce que j'espère qu'un jour je vais arriver là où je veux arriver. Et du coup, c'est une économie de la promesse et de l'espoir. Le présent est colonisé par ces projections désirables. Et c'est comme ça que cette industrie tient aussi du point de vue du travail.
Donc, il y a d'ascenseur social, voilà, d'être ou de devenir tête d'affiche. D'une certaine manière, est-ce que vous diriez que ça reste un milieu fascinant au sens premier du terme?
Bien sûr que ça l'est, parce que c'est je veux dire, si la mode elle a le pouvoir qu'elle a, c'est que il y a un mécanisme qui marche du point de vue de la construction de ces imaginaires. Et moi je l'ai pu voir, j'ai essayé de le déconstruire pas par pas, mais la transformation, pour moi ce qui est emblématique, c'est la transformation des corps des mannequins, lorsque on est sur la situation d'un shooting et j'étais confrontée systématiquement.
Alors, le shooting, c'est la séance de photos.
Oui, pardon, oui. C'est la prise de photos. Donc, j'étais confrontée à ces jeunes filles extrêmement jeunes, souvent très maigres, dont le corps ne correspondait pas forcément à ce qu'on peut penser être les canons de beauté. Eh bien, une fois tout le dispositif, l'apparat du rêve, par le maquillage, par les lumières, par les habits, par les machines qui font bouger les cheveux, etc., en place, il y a effectivement une fascination qui s'opère.
Mais c'est l'éphémère. C'est aussi.
C'est éphémère.
Tout est éphémère. Et c'est ce que vous racontez bien. Finalement, ces mannequins qui sont transformés lors de ces séances photos n'incarnent pas le rêve de façon constante. Ils le performent à un moment
bien
ou à un
sûr
autre. C'est un rêve de transformation pour la production d'images, pour faire rêver autour. Mais on n'atteint jamais cet état pérenne. Cette promesse, elle reste toujours en l'air et en permanence, en fait.
Oui, et c'est pour ça, que ça marche. C'est le mécanisme même du désir. Il faut une distance entre là où on est et ce que l'on désire. Et la mode marche à tous les points de vue. Du point de vue des consommatrices et consommateurs, mais aussi du point de vue des travailleurs. On tient en carbure pour ces moments éphémères où l'on capte le rêve, que ce soit parce qu'on l'incarne physiquement du point de vue des mannequins, ou alors pour ceux qui en est de tous les autres travailleurs que j'ai côtoyés, donc stylistes photo, coiffeurs, maquilleurs, pour ces moments dans lesquels on fait des incursions dans ces univers de rêve. On est dans un palace 5 étoiles, on boit du champagne, on a des habits qu'on pourrait en réalité jamais se permettre, on voyage en business class et on s'identifie avec ces imaginaires-là, ces lieux-là, alors que ce sont des incursions moindres, et après on retourne dans ces deux pièces à la chapelle où on dort derrière un paravent, on retourne aux factures à payer, aux courses à Franprix, à la facture du médecin qu'on ne peut pas payer.
Alors justement, ce qui est quand même très intéressant dans votre livre, à mon avis, dans votre enquête, c'est que tout cela est, comme vous l'avez dit, permettre d'avoir un miroir grossissant d'une réalité globale qui va dans ce sens-là aussi. C'est pas uniquement dans le secteur de la mode que ces phénomènes se produisent et qu'il y a une sorte de préfiguration du monde du travail de demain, de la manière dont les gens... Alors, est-ce que vous pouvez peut-être sortir du domaine de la mode pour nous dire comment vous voyez les choses plus globalement?
Oui, bien sûr, et je vous remercie pour cette question, parce que le but de mon enquête n'est évidemment pas que celui de décrire la mode, mais c'est vraiment de procéder, comme l'anthropologie le fait, par un monde pour monter en généralité. Et ce que l'on voit, c'est que... dans le capitalisme contemporain, dans les grandes villes, dans les noyaux tels que Paris l'est, les économies dites immatérielles, créatives, le secteur culturel sont au centre à la fois de la production parce que il n'y a plus d'industrie, les industries on les a délocalisées, démantelées, et ça fait déjà plusieurs décennies. Donc ces secteurs de production sont à la base de l'économie, sont aussi au centre des structurations sociales. Il est valorisé et valorisant d'être artiste. Avant, l'artiste était une figure marginale. Maintenant, tout le monde veut être créatif. Il y a cette dimension-là qui est mise en avant aussi par les discours publics. La ville qui se fabrique, Paris, est une ville pour cette nouvelle population cool, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Que ces mêmes secteurs professionnels qui sont à la base de l'économie et des structurations sociales, des nouvelles élites d'une certaine manière, eh bien, ce sont les mêmes secteurs qu'on va précariser de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique qu'on peut faire remonter aux contestations de la critique artiste de mai 68 contre l'aliénation de la société industrielle, du travailleur aliéné par la répétition des tâches, qui était donc complètement appropriée par le capitalisme néolibéral, avec ce discours de l'épanouissement personnel, de l'expression de soi dans le travail, qui s'est révélé être un outil très puissant pour démonétiser le travail et pour l'individualiser aussi. C'est une dimension que la mode permet de voir de manière saisissante.
La libération a conduit à une aliénation plus grande, en tout cas une récupération de cette individualisation.
Oui, et une différente forme d'aliénation qui se base précisément sur le fait que il est quasiment impossible d'établir une frontière entre le sujet qui travaille, qui produit, et le sujet hors du temps de travail. Toutes les sphères de la vie, les émotions, la créativité, les interactions sont accaparées par la production capitaliste.
Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, l'anthropologue Julia Menci-Thierry, pour son essai « Enquête, le plus beau métier du monde dans les coulisses de l'industrie de la mode » qui vient de paraître aux éditions La Découverte.
France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert.
13h16 sur France Culture. Un regard d'initié dans ce livre, Julia Mency-Thierry. Et qui vous a initié? Bien, d'abord toutes les personnes peut-être que vous avez rencontrées. Vous avez étudié là les rôles de chacun dans le collectif, les postures psychologiques, les hiérarchies dans un milieu qui se présente plutôt comme dénué de normes. Vous avez raconté ce monde qui se veut à part et qui d'une certaine manière l'est réellement, peut-être justement dans cette façon qu'il a de préfigurer ce que sera peut-être le monde du travail demain. Pour ça, c'est pour les faits en tout cas. Et puis pour la pensée, il y a Michel Agier, votre directeur de thèse, que vous citez régulièrement, Foucault, votre héros, Erwin Goffman, Luc Boltanski et bien sûr Pierre Bourdieu, auteur en 75 de Le Couturier et sa griffe, contribution à une théorie de la magie pour qui l'économie de la mode se développe, grossit en se nourrissant de symboles dont la femme est l'archétype.
Spontanément, on oppose économie au sens de faire des économies et luxe ou gaspillage. Le sociologue va se demander est-ce qu'il n'y a pas une économie du luxe, c'est-à-dire s'il n'y a pas une logique du luxe. S'ils font ça, c'est peut-être parce que ils y trouvent une certaine forme de profit qui ne sont pas de l'ordre économique. Est-ce qu'un certain type de gaspillage économique, qui du point de vue de l'économie petite bourgeoise, de l'épargne ou de l'investissement rationnel, est-ce que ces conduites qui paraissent absurdes n'ont pas une certaine logique? Alors, par exemple, un sociologue américain très célèbre, qui s'appelle Veblen, a développé l'idée de consommation ostentatoire. Ce sont des consommations qui sont en quelque sorte à elles-mêmes leur fin. C'est-à-dire, je ne consomme pas du caviar pour le goût du caviar, ou en tout cas pas seulement, je le consomme pour être vu mangeant du caviar, pour qu'on puisse dire que je mange du caviar, et beaucoup de choses. Alors évidemment, un certain nombre de consommations, comme l'achat d'automobiles de luxe, comme l'achat de vêtements de luxe, ou alors là, c'est de la consommation ostentatoire par excellence, c'est la femme, bon, pour les hommes, c'est-à-dire c'est la femme qui est, par sa beauté et par tous les signes de beauté et de richesse qu'elle peut porter. La femme est une sorte de sémaphore qui porte des signes de distinction. Alors c'est un instrument d'ostentation.
Alors, est-ce que comme le sociologue, l'anthropologue que vous êtes, Julia Mency-Thierry, a aussi interrogé la logique de ce système? La réponse est oui. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur le déclaratif, sur ce que la parole, sur ce qui vous était délivré. Et vous vous êtes notamment questionné sur l'écart entre votre ressenti, ce que vous avez pu voir aussi, et la manière dont on vous présentait ou dont on vous parlait de ce milieu, de ce travail.
Ben oui, je pense que voilà, du point de vue méthodologique, c'était un enjeu très important. La place que je donnais à ce que moi je ressentais en tant que chercheur, chercheuse dans un monde qui met à l'épreuve constamment pour ses interactions, pour l'injustice qui est parfois même revendiquée parce qu'elle confirme l'exceptionnalité de ce monde-là, et puis aussi la volonté de prendre extrêmement au sérieux ce que j'ai fait, ce qui m'était dit. Donc il y avait cette double tendance entre déconstruire le discours qui faisait que, par exemple, on puisse, je donne quelques exemples, le témoignage de l'assistant d'un grand maquilleur qui donc se trouvait à devoir composer des carrés de coton-tige vert d'un certain format particulier, sinon ce grand maquilleur dont le contrat est de plusieurs millions d'euros par an et qui bouge pas son petit doigt pour moins de je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros par jour,
donc par doigt.
Non, par jour. Donc, lorsque
s'il n'a pas ses Q-tips, c'est ses cotons bien installés, il refuse de travailler.
Il fait une crise. Mm. C'est ça qu'il m'a dit. Il fait une crise. Il est hors de lui. C'est pas possible pour lui. Et de voir comment la personne qui est en face de moi, qui a fait un burn-out, qui est dans un état de fragilité psychologique qu'il énonce comme tel, justifie. Il me dit c'est un génie, j'ai eu la chance de travailler à côté de cette personne et je me demande si j'ai pas été assez fort pour tenir ou assez fort pour m'en aller. Donc vous voyez, que ça pose des questions qui sont des questions importante vis-à-vis de la place que l'on donne à ce type de pouvoir-là, ce pouvoir symbolique-là, à ce type de relation autoritaire. Et on est aussi, quelque part, dans une... le monde des médias aide à spectaculariser et à glamouriser ce type de figure-là de la mode. Je pense notamment au film Le Diable s'habille en Prada, où il y a une véritable glamourisation de la domination. Quelque part, c'est une des règles de la mode, une des règles du jeu, c'est d'accepter ce type d'interaction, de comportement, d'asymétrie, d'inégalité, pour être là dans cet univers désirable.
Et alors, comment vous expliquez du coup que chacun consent à n'être rien ou pas grand-chose ? Vous parlez du règne absolu de l'individu interchangeable, pas du sujet. C'est impossible d'exister pour soi-même dans ce petit laboratoire du capitalisme de demain ?
C'est une contradiction assez poussée, parce qu'à la fois, il y a l'injonction à se fabriquer et à performer une personnalité, une manière d'être. Et encore une fois, la mode est une loupe, parce que c'est ce qui nous est demandé dans tous les milieux professionnels désormais. Hein, cette idée de se vendre, d'être sur les médias, de se mettre en scène, d'interagir, cette idée de l'auto-entrepreneuriat au sens large qui est exigé désormais dans tous les métiers. Ben, la mode pousse ça à l'extrême. C'est une des règles. Il faut se fabriquer. Ça m'a été dit tel quel, noir sur blanc. Tu dois t'inventer un personnage et si tu vois qu'il fonctionne, tu dois le tenir. Donc, à la fois, il y a cette injonction à être et de l'autre côté, il y a aussi des règles très très fortes qui délimitent la place de cette subjectivité, c'est-à-dire qu'on doit être bien dans les marges de ce qui est autorisé par la place qu'on occupe dans la hiérarchie, et ceci implique aussi que, évidemment, la contestation et l'identification à un discours collectif, à un imaginaire collectif, à un commun qui puisse mettre en question ce type de dynamique, n'est pas possible. Et dans la mode, il m'a été dit, noir sur blanc, c'est le royaume du sujet. Ce n'est pas le royaume du collectif. Les autres ne nous intéressent pas. C'est le regard des autres qui nous intéresse.
Et vous arriviez à ne pas réagir, à rester vous-même, à ne rien dire ? À ne pas tiquer ?
Je sais pas si que mon visage, je suis pas exactement quelqu'un d'inexpressif.
Non, c'est pour ça.
Et ce n'était pas le but par ailleurs, mais j'écoutais, j'essayais de comprendre.
Et ce livre fourmi d'anecdotes, vous racontez tout ce que vous avez vécu, vu. C'est un livre qui est vraiment nourri de nombreux exemples de tout ce que vous avez pu voir. On évoquait cette philosophie, le luxe, plus qu'un milieu. Une philosophie, ça c'est ce que dirait Karl Lagerfeld.
Vous savez, le luxe, il y en a de toutes sortes. Le luxe, c'est aussi d'avoir du temps pour soi, sans être obligé de vivre sous une pression continuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pauvres gens qui n'ont rien à faire et d'autres qui sont trop stressés. Donc ça, c'est du luxe aussi. Le luxe, c'est aussi une question de qualité. Le luxe, c'est une question de tournure d'esprit. Vous savez, on peut faire un essai là-dessus. Ça n'est pas seulement les choses chères. Il faut encore qu'elles soient bien faites et qu'elles justifient leur prix, et leur qualité doit être impeccable. Parce que faut pas oublier que, aussi bien que pour Fendi que pour Chanel, je travaille dans des conditions exceptionnelles. J'ai les meilleurs gens dans les meilleures conditions. Je n'ai pas des gens de marketing dans les pattes. Je peux faire ce que je veux où je veux. Vous comprenez, ça, c'est déjà le comble du luxe. Hein? Parce que dans d'autres maisons, le designer, il a le marketing. Il a dit, moi, j'ai pas ça. Donc, si on voulait m'embêter avec ça, je partirais à la seconde.
Hein? Réaction. C'est la vérité. Par rapport au luxe et au luxe d'avoir le temps, il y avait un créateur que j'ai interviewé qui a travaillé longtemps justement dans le luxe et qui maintenant a la cinquantaine et qui m'a dit, maintenant j'ai arrêté tout ça, je suis sortie du glamour parce que je travaillais dans le luxe mais j'avais pas de week-end, pas de vacances, je pouvais pas voir mes amis. Maintenant, ce que je fais n'est peut-être pas si désirable, mais j'ai le luxe d'avoir du temps. Et c'est effectivement un grand luxe, et la liberté dont parle Lagerfeld de pouvoir faire que le métier pour lequel on est formé, soi-disant, c'est un luxe actuellement, c'est un anachronisme. Il est demandé aux travailleurs de l'industrie de la mode, mais de toutes les autres industries créatives en général, non seulement de faire le travail pour lequel ils sont formés, mais nous revenons en même temps de à se mettre en scène, de faire du networking, d'être des managers, de faire la comptabilité du réseau.
Julia Mancy-Thierry, un monde plutôt précaire, un monde pas très solidaire, c'est ce que vous nous disiez aussi. Dans tout ça, on se dit que là où il y a domination, pour parler comme Pierre Bourdieu, il y a généralement résistance. Est-ce que vous avez trouvé, durant cette enquête, des formes de résistance qui se seraient mises en place, ou alors très très à la marge?
Non, je peux pas parler de véritable forme de résistance. Après, je pense que il y a toujours des petites marges de résistance, et c'est là qu'il faut aller voir. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que, et là, je suis pas d'accord avec Bourdieu, parce que Bourdieu dit que la domination se base sur la méconnaissance des structures de pouvoir. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est surtout lorsque je suis allée enquêter vraiment chez les créateurs, les gens qui sont au centre de ce système de création qui est la mode. Bien, les gens savent exactement ce qui se passe, et malgré cela, ils sont assujettis à cette fascination. Et la résistance n'est pas là parce que, effectivement, comme Lagerfeld l'a dit dans une de ses affirmations, la mode, c'est l'injustice totale. C'est comme ça, et c'est tout. Et c'est quelque part une règle de passage, d'accepter cette injustice-là. Si on cherche de la justice, on n'est pas dans la mode, on y sort.
Oui, une sorte de perversion malgré tout, où il faudrait adhérer à quelque chose qui nous aliène au nom d'un choix, de quelque chose de supérieur qui nous permettrait d'être quelqu'un d'autre, de plus que ce que nous serions si nous étions seulement...
Une projection désirable de soi. Après, il y a des petites choses qui bougent, notamment du point de vue du mannequinat. Ce sont les lieux où il y a le plus de résistance.
C'est le corps, finalement, qui résiste.
Oui, c'est le corps, mais je pense que là, on est vraiment, du coup, le mannequinat pousse à bout toutes les formes de violence, pas que de la mode, du capitalisme en général, et effectivement on est sur la vie, la survie. Donc c'est là effectivement que la résistance est vitale, dirais-je.
L'avenir du travail à travers votre enquête, Julia Mancy-Thierry, et ce livre, Le plus beau métier du monde dans les coulisses de l'industrie de la mode. Rappelons qu'il y a aussi dans ce livre, en dehors d'avoir mille anecdotes, aussi une perspective historique qui est très intéressante, où vous situez plusieurs points de bascule de la démocratisation avec les années 70, de la mondialisation et de la starification avec les années 80, à l'impérialisation du marché de la mode dans les années 90. Ce livre peut donc se lire avec plusieurs entrées. Merci beaucoup à vous. Merci mille fois. Merci Antoine, merci de nous avoir accompagnés. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. La programmation, préparation, Claire Maillot et Clémence Marie, Chloé Leblon avec Henri Leblanc, Maxime Morin et Émile Boutelier. À la réalisation, Liscombe avec Jean-Frédéric. Très bel après-midi à tous et à demain.